clavado muy hondo en la historia correntina. Fortín fue del norte al paso de los Zabal. Quiero recordarte, pueblo de mis mocedades, antes que tus calles queden sepultadas por el arenal. Añoro tus quintas, enfilados naranjales, tus chinas maduras, quebradas sobre el maizal, y tu sol ardiente que vuelve la tierra arena. Hoy quema mi sangre cuando al recordarte digo este cantar. De Cacatiamburucuya más de 15 leguas hay que atravesar.
La voix de Mercedes Sosa, car c'est d'Argentine dont nous allons parler oula, maintenant. Et c'est une quête de sens, une quête qui doit conduire la vérité intime et collective. Cette histoire vraie est un récit, un poème en prose aux formes multiples, un texte qui se déroule dans un pays étrange où il manque des gens, il en manque quelques milliers, on prétend les avoir oubliés. Une nation où l'absence est omniprésente, ce pays, c'est l'Argentine, je le disais. Les disparus de la dictature, ce sont eux, leurs mémoires et leurs traces, leurs enfants et leur image que ce livre recherche. Il est intitulé « L'absence est une femme aux cheveux noirs », c'est son titre. Cela vient de paraître aux éditions du Sous-sol et nous revenons ce matin avec son autrice sur ce qu'il raconte. Bonjour Emiliane Malfatto.
Bonjour.
Et à vos côtés, le photographe de ce récit, il s'appelle Raphaël Rora. On reviendra évidemment sur ces photographies impressionnantes, mais commençons par le texte. Je le cite, peut-être la première phrase, c'est une ville étrange où il faut savoir où on va. Et vous, Emiliane Malfatto, au début du texte, vous ne savez pas, vous allez vous revendiquer même cette idée qu'il faut ne pas savoir où on va pour trouver ce que l'on doit trouver. Pourquoi commencer par cette idée ?
Alors moi, j'ai quelque chose, je pense, de très inconscient, de très impulsif quand il s'agit d'écriture. Donc j'aurais du mal à dire pourquoi j'ai choisi ce morceau-là pour commencer. En tout cas, ce qui est clair, c'est que on est sur un livre qui est assez flou, qui est beaucoup dans cette espèce de recherche de quelque chose en fait d'impalpable, qui sont les traces de la dictature. Donc ne pas savoir exactement où on va, chercher comme ça dans ce flou, dans cette espèce de brume, en fait c'est une image qui au final me va pour commencer le livre, même si je l'ai pas forcément choisi consciemment.
Rappelez-nous peut-être pourquoi, comment 30 000 personnes environ ont disparu en Argentine sous la dictature entre 1976 et 1983.
Oui, alors, donc c'est la dernière dictature argentine dont on parle. Je dis la dernière parce qu'il y en a eu un certain nombre d'autres au XXe siècle. C'est une dictature qu'on qualifie de civico-militaire. Il y avait une junte au pouvoir, il y en a eu plusieurs qui se sont succédés, donc de 76 à 83. Et la dictature, elle intervient dans une phase où l'Argentine se trouve à un moment un petit peu chaotique au niveau de sa situation nationale. Donc il y a ce coup d'État en 76. Et donc on est dans le contexte de la guerre froide. On est dans le contexte de cette décennie où beaucoup d'autres pays du cône sud sont déjà en dictature. Vous avez le Chili, vous avez l'Uruguay, le Brésil, le Paraguay, etc., la Bolivie. Et l'Argentine est en fait le dernier pays de cette région à passer en dictature. Donc d'extrême droite, voilà, guerre froide, on traque les rouges, etc. Sauf que ils n'ont pas fait par exemple comme au Chili. Au Chili, on a rassemblé les gens dans des stades et on les a fusillés. Il y a eu quelque chose de peut-être plus intelligent et peut-être plus pervers, c'est qu'on a fait disparaître les gens, c'était le terme utilisé, hein, desaparecer a la gente. Donc voilà, on fait disparaître les gens qui, dans l'immense majorité des cas, étaient évidemment morts au bout du compte. Mais donc voilà, ces gens-là disparaissaient.
30 000 personnes ont disparu. Et ce qui vous intéresse dans cet ouvrage intitulé « L'absence est une femme aux cheveux noirs », c'est, je le disais, l'omniprésence de l'absence qui est partout en Argentine. On ne sait pas où sont les disparus, mais pourtant ils sont dans les rues, dans les cafés, ils sont dans l'esprit en continu des gens que vous avez rencontrés. Pourquoi s'intéresser à ce sujet si tragique dans le fond et au même temps si trouble ?
Ouf, alors moi je pense que les sujets troubles et les sujets un peu comme ça, un peu peut-être dans des tons de gris m'intéressent, qui sont pas, qui sont en tout cas un peu plus complexes. On n'est pas forcément dans quelque chose d'hyper manichéen. Les choses, voilà, où il faut aller fouiller un peu le flou m'intéresse. Parce que c'est une chose, moi, qu'on m'a dit en Argentine. On m'a dit, mais bon, ici, il y a des politiques de mémoire. Bon, après, avec l'arrivée de Milei au gouvernement, la situation a changé. Mais en tout cas, il y a des politiques de mémoire. Il y a eu des procès. Oui, d'accord. Mais il n'empêche que il y a plein de choses qui sont pas réglées. Et il n'empêche que il y a cette absence qui prend beaucoup de place. Il y a des gens qui manquent, il y a des enfants, les enfants des disparus, il y en a qui ont été volés. Et donc, c'est vertigineux parce que ça veut dire qu'il y a quelque part toute une génération. Si vous êtes né en gros entre 75 et 83, c'est comme si toute la génération pouvait se dire « mince, qui suis-je en fait ?» Et c'est vraiment vertigineux quand on y pense.
Je voudrais vous faire entendre la voix de deux femmes. Elles faisaient partie d'un groupe large qu'on appelait les folles de la place de Mai. Et elles racontent ce qu'elles ont vécu.
Tout le monde qui est ici, et nous ne savons pas le destin de notre fils.
Vous avez tous perdu un fils, un père,
oui,
un mari.
Non, j'ai perdu ma fille. Ma fille, qu'elle était étudiante.
Est-ce qu'elle était politiquement engagée?
Oui, je crois que oui. Mais ça, ce n'est pas la question.
Bien sûr.
Je veux savoir qu'est-ce qu'on a fait avec elle.
Ça fait combien de temps que vous avez perdu votre fille?
Il y a 5 ans et demi.
Et depuis, plus rien. Vous avez fait des demandes officielles?
Oui, j'ai fait toujours l'officiel. J'étais à Paris, j'ai parlé avec... J'ai fait tout ce qu'ont fait tout le monde, mais sans aucune solution.
Et la réponse officielle, et on ne sait pas.
C'est toujours qu'ils ne savent rien d'elle. N'est pas,
pour vous, c'est pareil?
Oui, mon père, c'est qu'il est disparu il y a 5 ans aussi. On n'a rien su. La même réponse. Tous les mois, on présente quelque chose et on a dit on ne sait rien.
Et lui aussi était engagé politiquement?
Non, il était avocat seulement. Il avait travaillé avec des presse politiques, mais pas lui personnellement, n'est-ce pas?
Et alors aujourd'hui, en 1982, ça a un petit peu changé? C'est devenu plus calme?
Non. C'est une apparence, mais c'est toujours la même chose.
Une archive INA, c'était sur Antenne 2 en 1982. Emilienne Malfatto, rappelez-nous, redites-nous qui étaient ces folles, le terme interroge, ces folles de la place de Mai.
Ouais, alors déjà, folles, c'était le terme utilisé à l'époque par la dictature pour qualifier ces femmes. Donc c'était évidemment pour donner une image négative. Et donc ces femmes, c'était en fait des mères. En Argentine, on dit les mères de la place de Mai, las madres de la Plaza de Mayo. C'est des mères dont les enfants, en fait, avaient disparu. Et donc ces femmes, en fait, bon, moi j'ai pu en rencontrer, puisqu'elles sont âgées, donc elles disparaissent malheureusement. Moi j'ai pu en rencontrer, et en fait c'est tout simple, c'est vous vivez en Argentine, on est en, je sais pas, 78, vous avez un enfant, et puis un jour il rentre pas, et on vous dit que... Voilà, où vous allez chez lui, tout a été dévasté, il a disparu. Comment vous faites? Comment vous cherchez un enfant, en fait?
Ce que raconte aussi le livre, ce qui est absolument terrible, là encore, du point de vue humain, c'est que beaucoup des enfants qui ont été... beaucoup des enfants qui sont les délaissés de ces disparus sont allés vivre, ont été récupérés par leurs bourreaux. Racontez-nous comment.
Alors, ça, en fait, ça, c'est les petits-enfants, enfin, c'est les enfants des disparus. C'est-à-dire que donc les gens étaient enlevés par les forces du régime, par les forces de la junte, et parmi ces gens qui étaient enlevés, il y avait parfois des gens qui avaient des très jeunes enfants, des mères avec des très jeunes enfants, où les jeunes enfants étaient parfois embarqués, puis il y avait des femmes enceintes. Et les femmes enceintes, quand elles se retrouvent en détention, par exemple à la ESMA, qui était le grand centre de un des nombreux centres de torture de Buenos Aires. Bah, à un moment, l'accouchement arrive à terme, enfin, la grossesse arrive à terme et elles accouchent. Et donc là, les enfants, y en, pas tous, hein, mais il y en a eu qui ont été volés. Et là, c'est terrible parce qu'il y en avait qui étaient volés pour quelque chose de peut-être de plus banal, c'est-à-dire j'ai pas d'enfant ou j'ai un copain qui a pas d'enfant, bah, je prends le bébé, quelque chose de plus de l'ordre de quelque chose de très opportuniste. Et puis il y avait des cas où il y a eu un plan vraiment idéologique derrière qui était de dire on va soustraire ces enfants aux familles rouges, entre guillemets, et on va les faire élever dans des bonnes familles, c'est-à-dire des familles de droite, des familles catholiques, etc., pour éradiquer le gène rouge, pour essayer d'éradiquer le gène rouge.
Parmi les nombreuses figures, Emilienne Malfatto, que l'on croise dans ce texte, dans ce roman composite, je le disais, il y a une femme qui a donné naissance au titre de cet ouvrage, L'absence est une femme aux cheveux noirs. Cette femme aux cheveux noirs, ils sont encore noirs car elle se les teint. Expliquez-nous pourquoi elle tient à garder ses cheveux de cette couleur noire.
Ouais. Alors ça, c'est peut-être une des rencontres les plus marquantes du livre. Cette femme, elle s'appelle Mercedes. On est allé la rencontrer, elle habite dans une petite ville à la frontière bolivienne. Et donc Mercedes, son frère a été enlevé, son frère a disparu avec sa belle-sœur et avec leur petite-fille, qui a donc été une de ses enfants volés. Et Mercedes, aujourd'hui, c'est une vieille femme qui a beaucoup de prestance. Et elle a une énorme tignasse comme ça de cheveux qui sont encore noirs, alors qu'elle-même est assez âgée. Et elle nous a expliqué qu'elle n'avait pas voulu que ses cheveux deviennent blancs, elle avait voulu les garder noirs pour garder le même visage. Elle nous avait dit comme ça, c'est assez terrible, elle nous a dit, si mon frère revenait, comme ça, s'il me voyait dans la rue, eh ben, il reconnaîtrait mon visage, parce que mon visage n'aurait pas changé. Et son frère n'est jamais revenu.
Elle souhaite que les disparus, s'ils revenaient, puissent la reconnaître.
Que son frère puisse la reconnaître.
Alors, vous n'êtes pas venue seule, Emilienne Malfatto, parce que ce livre, vous ne l'avez pas composé seule. Je le disais, c'est un roman, un texte composite. Il est fait de textes courts, de poèmes. Il est fait aussi de notices, parfois, et de notices historiques. Mais il est aussi composé de photographies portées par Raphaël Roy. Bonjour, Raphaël Roy.
Bonjour.
Et merci d'être là. Et merci aussi à Matteo Caranta, qui s'est improvisé traducteur de cet échange. Comment est-ce que vous avez choisi ces photographies que l'on trouve tout au long de cet ouvrage qui jalonne le texte d'Emilienne Malfatto?
Bueno, vamos a tener acá traducción simultánea. Lo primero.
Une traduction instantanée.
Que buscábamos tal vez hacer foco y resaltar algunas partes del texto.
Nous essayons de faire mettre en valeur une partie du texte.
Y lo primero es que pensamos que el texto siempre iba a estar en diálogo con la imagen.
Et nous avons toujours voulu que le texte soit en dialogue avec l'image.
Trabajamos siempre en función de eso, de.
Donc on a toujours travaillé en fonction de ça. Comment est-ce que la image pouvait compléter le texte?
Siempre pensamos que iba a ser un texto literario y que
este texto que ça allait être un texte littéraire et que ce texte littéraire allait être alimenté par des images.
Tal vez lo que puede hacer la imagen es fijar un poco más la atención.
Je crois que l'image peut fixer l'attention.
Cuando vemos una imagen,
quand on voit une image,
nuestra atención se retiene un momento,
notre attention s'arrête un moment.
Este libro, cuando vemos retratos,
et peut-être
cuando vemos
dans ce livre, lorsqu'on fait des portraits, lorsqu'on voit des photos,
notre esprit
s'arrête sur une idée
une
ou sur une sensation.
C'est cela, Raphaël Roy, au fond, la fonction de ces images, c'est de s'arrêter un instant de lire, de lever les yeux et de réfléchir, de penser.
Sí, tal vez pensar, pero también.
Oui, je crois effectivement penser, mais aussi ressentir des choses.
Que son barridas, que son oscuras.
Il y a des images qui sont obscures.
Y digamos no es, esto no es deliberado, no es gratuito.
Et ce n'est pas un acte gratuit. Elles sont pas sombres pour rien.
Hice fotografías, digamos, para este libro. Sabía que era un tema
oscuro.
Lorsque
je faisais des photos pour ce livre, je savais que c'était un thème difficile. Un thème tragique.
Saber que no hay claridad todavía,
et qu'il manque un sujet qui manque de clarté aujourd'hui, il n'y a pas de consensus. Et donc les ombres dans l'image. Les ombres dans l'image sont ici pour refléter cette sensation de manque de clarté qu'il y a encore aujourd'hui en Argentine. Et que les Argentins aussi puissent, que la mémoire des Argentins de cette période historique de l'Argentine puisse remonter à travers ces photos.
À propos de ces ombres qui demeurent et qui s'étendent encore, vous écrivez, Emilienne Malfatto, à propos de l'Argentine, c'est un pays qui ment et qui ne veut pas se souvenir, un pays de mensonges. Fin de citation, pourquoi ?
Oui, alors là, l'image, puisque donc c'est un texte de non-fiction, hein, il n'y a pas une ligne d'inventée. En revanche, c'est un texte éminemment personnel et qui va beaucoup vers quelque chose d'un peu peut-être poétique dans la forme. Parce qu'à un moment, au cours de l'enquête, qui a été assez longue, qui a été assez approfondie, il y a un moment où moi, j'avais la sensation que tout mentait. Une espèce de sensation presque de paranoïa, de dire mais tout ment, tout le monde ment, et avec cet aspect de dire mais vous allez à un fleuve, vous avez l'impression que c'est la mer, enfin une espèce de quelque chose de général, où vous commencez à tout voir à travers un prisme qui est évidemment déformant.
Mais un mensonge sur quoi? C'est-à-dire que les personnes, les Argentins que vous avez rencontrés refusent de reconnaître ces disparus tout en parlant continuellement?
Quelque chose de plus impalpable, comme de dire il y a dans cette société, comme s'il y avait une brume, comme s'il y avait une couche de brume Et à un moment, on dit, mais mince, en fait. Et c'est pour ça que je dis, c'est évidemment un moment, c'est évidemment une image littéraire, et c'est un prisme qui est déformant, parce qu'on est tellement plongé dans le sujet qu'au bout d'un moment, on finit... C'est pour ça que j'ai dit à un moment, mais le fleuve ressemble à la mer, et c'est un mensonge, et l'espagnol a l'accent italien, et c'est un mensonge, et cette espèce de sensation de dire, mais ouf, tout est brumeux, quoi.
D'un mot, vous dites aussi, il faut peut-être changer de métier. C'est une expérience, cette enquête qui vous a éprouvé.
Bon, alors, je pense pas sérieusement à me reconvertir dans la pâtisserie ou quoi que ce soit, encore que ça pourrait être une possibilité. Mais c'est peut-être parce que au final, je travaille souvent sur des thèmes un petit peu compliqués. Et c'est ça qui m'intéresse, clairement. Mais c'est vrai que ça pèse aussi à un moment.
Et on peut le comprendre en vous lisant. Merci beaucoup, Emilienne Malfatto, Raphaël Roa, pour cet ouvrage intitulé « L'absence est une femme aux cheveux noirs ».